Je m'appelle Sophia Bouderban, je suis championne d'Europe de karaté et je vais vous raconter comment une erreur médicale aurait pu mettre fin à ma carrière prématurément ou avoir des conséquences dramatiques sur ma vie.
Championne du monde
40-0.
Salut, c'est Cléo et bienvenue sur Championne du Monde, le podcast des femmes qui construisent le sport de demain. Alors, pas besoin d'être championne du monde pour passer ici. Toutes les deux semaines, on vous fait découvrir la voix de femmes qui incarnent le sport et font bouger les lignes. Athlètes, journalistes, médecins ou même ta mère, fan de Kevin Mayer, on part à la rencontre de nanas qui déchirent et surtout toujours plus badass que la plus badass de tes copines. Bonne écoute! Bienvenue dans Story, le nouveau format de championne du monde qui donne 100% la parole à une personnalité du monde du sport. Elles vous raconteront des récits fascinants, souvent bouleversants, sur des événements marquants qu'elles ont traversés ou traversent encore dans leur vie. Des histoires qui, à coup sûr, ne vous laisseront pas indifférents. Aujourd'hui, vous allez entendre l'histoire de Sophia Bouderban, quintuple championne d'Europe de karaté kumite, qui a vécu un véritable enfer pendant plusieurs années et aurait pu perdre sa jambe, voire la vie, suite à une erreur médicale.
J'ai commencé le karaté très tôt, à 3 ans et demi. J'ai commencé parce que mon frère et ma sœur avaient commencé à en faire dans un petit village, je suis originaire du Var, donc dans un petit village du centre Var. Et en fait, je les accompagnais à l'entraînement et au bout d'un moment, j'ai dit « je vais essayer ». Donc très jeune, hein, 3 ans et demi, à cette époque-là, c'était pas encore développé. Maintenant, il y a le baby karaté, il y a beaucoup de choses. Mais du coup, c'était un seul cours avec des ados, des adultes, enfin tout le monde. Et j'étais quand même assez sérieuse et disciplinée déjà. Donc l'entraîneur a bien voulu que j'essaie à 3 ans et demi. Et j'ai jamais arrêté. Hein. Voilà, j'ai continué. J'ai fait championne de France à 9 ans. Et j'ai intégré l'équipe de France à 14 ans, donc l'âge minimum pour intégrer le collectif France. J'ai commencé dans le petit club avec toute ma famille, mon frère, ma sœur. Ma petite sœur aussi s'y est mise par la suite. Ma mère en a fait pendant longtemps. Elle a même été ceinture marron. Donc, elle a continué un long moment. C'était une activité familiale et ça l'est toujours aujourd'hui. On est tous soudés derrière ça et ils m'ont toujours suivi aussi accompagnée sur mes compétitions, même si eux ont arrêté. Quand j'ai commencé à avoir des résultats, donc j'étais déjà championne de France, j'ai voulu un peu... augmenter mon niveau et surtout répondre aux contraintes de l'international. Donc je suis allée dans un club, le seul club élite de la région, qui était à Marseille. Donc c'était quand même loin, parce que moi j'étais à 1h30 pratiquement, 1h15. Donc pratiquement tous les soirs, on faisait 1h30 de route aller, 1h30 de route retour pour que je puisse aller m'entraîner. Au départ, c'était avec mes frères et sœurs, donc toute la famille s'entraînait. Au fur et à mesure, ils ont arrêté et il ne restait plus que moi. Donc ma mère m'a emmenée, uniquement moi, jusqu'à Marseille. Après, j'étais en conduite accompagnée, donc je l'ai aidé à faire les allers-retours en conduisant. Quoique, des fois, j'étais fatiguée quand même parce qu'il était tard. Et j'étais aussi fatiguée de mes journées de cours parce que j'étais pas aménagée. J'ai fait mes études jusqu'à mes 19 ans sans aménagement. Donc, je faisais mes journées de cours 8h, 18h et après, j'allais m'entraîner. Donc, j'ai fait ça pendant des années, de mes 13 à mes 18 ans. Avec le recul, je me suis rendu compte aussi que c'était un peu mon exutoire, puisqu'à la base, j'étais quand même très timide. Réservée, même si aujourd'hui ça peut surprendre quand je le dis, mais c'était le cas et c'était à travers ça que je m'exprimais. Et aujourd'hui, j'ai conscience à quel point ça m'a aidé à me construire en tant que personne, pas qu'en tant qu'athlète, en tant que personne, en tant que femme. Et à l'époque, je continuais juste parce que j'aimais ça, par plaisir. Et aussi, j'avais la chance que ma mère accepte de faire ses allers-retours, qu'elle m'accompagne au plus haut niveau. Et à la suite de ça, donc, j'ai eu des résultats aussi internationaux. Donc à 14 ans, je suis sélectionnée en équipe de France, sans être en pôle, puisqu'il existe des pôles. À l'époque, il existait plusieurs pôles. Il y en avait un à Talence, un à Montpellier. Moi, je n'avais pas rejoint de pôle à ce moment-là. J'en avais pas l'envie. Ça marchait bien comme je fonctionnais. Et je n'avais pas forcément aussi envie de quitter ma famille. Donc j'ai continué comme ça pendant des années et ça me réussissait bien. Parce que ma première compétition internationale, c'était des championnats du monde. Je fais troisième sur un championnat du monde, donc pour ma première compétition. Et derrière, les résultats ont suivi très rapidement. Je faisais des podiums... à chaque sortie internationale pratiquement, jusqu'à faire championne d'Europe en cadette en 2012, mon premier titre de championne d'Europe. Et derrière, voilà, ça a suivi. Donc forcément, quand les résultats suivent, on n'a pas envie d'arrêter. Et surtout aussi, ce qui a été plus compliqué, en tout cas pour moi, ce qui a été aussi difficile à gérer, c'est que j'avais aussi des exigences pardon, très élevées dans mes études. Ça a toujours été le cas. Pour moi, en tout cas, à l'origine, c'était les études avant tout et le karaté à côté. En tout cas, c'est ce que je me disais à l'origine. Et c'est pour ça que j'ai continué des études sans aménagement. Sauf que du coup, ça faisait des journées très complètes. Et l'accumulation des cours, plus les entraînements le soir, ça faisait une fatigue physique importante et des fois aussi mentale et morale. Il y a un moment où j'ai senti un blocage, forcément, c'était en post-bac. Donc jusque-là, tout se passait bien. J'étais aussi... j'ai toujours été travailleuse, hein, que ce soit dans les études, dans le sport, peu importe. Donc je travaillais mes cours, mais j'avais des facilités quand même, on va pas se mentir. Mais jusqu'à avoir un bac S, mention très bien, j'ai quand même bossé pour avoir ça, tout en étant sportive de haut niveau à côté. J'étais déjà championne d'Europe, etc. Donc, jusqu'au bac, on va dire que ça a été. Même si c'était dur, hein, je rentrais chez moi, des fois il était minuit et demi. Des fois, je commençais mes devoirs à cette heure-là. Des fois, je les faisais dans la voiture. Enfin, c'était pas simple. Mais j'ai toujours eu ce double projet. Et par contre, après le bac, là, je savais pas vers où m'orienter. On m'a dit, par rapport à mes résultats scolaires, et surtout que j'étais en scientifique, moi aussi j'avais envie de le tenter, mais du coup d'aller vers des prépas. Et j'ai postulé donc à des grandes prépas et j'ai été prise dans une grande prépa parisienne. À l'époque, je n'avais aucun recul sur ce que c'était une prépa, sur ce que ça demandait. Et en fait, j'ai été prise dans une prépa à Sceaux qui était à un quart d'heure de... elle était à un quart d'heure du pôle. Donc il y avait un pôle France à Châtenay-Malabry, il existe toujours ce pôle. Et je m'étais dit, c'est parfait, je pourrais m'entraîner au pôle et je ferai ma prépa en même temps. Sauf que forcément, une prépa et surtout une des grandes prépas parisiennes, juste en dessous de Henri IV ou Le Grand, pour ceux qui connaissent, c'était une prépa PCSI, donc physique-chimie. Là, forcément, ça a bloqué. Donc, beaucoup ont arrêté au cours d'année. Une dizaine, hein, je ne sais même plus le nombre, même plus, on a fini très peu. Moi, j'ai tenu, alors que c'était très, très dur psychologiquement. Et c'était la première fois, en fait, où j'étais dans un échec. On peut dire que j'étais en échec scolaire, même si, c'est un niveau prépa, mais j'étais dans l'échec parce que je ne pouvais pas fournir la quantité de travail qui était demandée. Le soir, il y avait des calls, c'est les interrogations orales avec un professeur au tableau. Je rentrais au pôle, des fois, il me restait une demi-heure d'entraînement, donc je m'entraînais comme ça. Ça, c'était horrible, très, très dur. Les classements aussi sont donnés à chaque fois qu'on fait des évaluations. Au fur et à mesure, mon classement diminuait et il distribuait par ordre de classement. Donc, pour bien montrer, t'es la dernière. Enfin, c'était vraiment un système très inhumain, très difficile à vivre et surtout en ayant ces exigences-là du haut niveau à côté. Donc, je m'entraînais très peu. C'était l'année où je me suis moins entraînée en karaté, où j'étais psychologiquement, c'était très compliqué. Je devais m'absenter pour faire mes compétitions puisque j'étais toujours en équipe de France malgré tout. Et cette année a été très dure moralement, mentalement. Mais c'est aussi l'année où j'ai compris l'importance du karaté. Parce que c'est cette année-là que je me suis rendu compte que sans ça, j'aurais sûrement fait une dépression, tout simplement. Que c'était ce qui m'aidait à tenir, que c'était les petits moments qui me rendaient heureuse dans ma journée, dans mon quotidien. Et c'est cette année-là que je me suis rendu compte que c'était pas les études et le sport à côté, mais que c'était vraiment l'un avec l'autre et qu'il me fallait un système qui permette de combiner les deux. Et pour la petite histoire aussi, même si c'était ma pire année en termes d'entraînement, à part l'année 2019 où je fais championne d'Europe senior, ça a été une de mes meilleures années en 2014. Donc j'avais 18 ans, donc je rentrais en senior, en élite. En début de saison, je gagne la Coupe de France face à la numéro 1 à l'époque mondiale et européenne, qui était une Française. Donc, je la bats en finale de la Coupe de France. Derrière, je fais championne d'Europe, espoir. Donc, espoir, c'est 18-21 ans. Je gagne les championnats d'Europe. Derrière, c'était la fin de saison. Enfin, pour moi, je continuais, mais je fais championne de France, toujours en battant ma concurrente là en finale. Donc, c'était une saison déjà exceptionnelle. Donc là, j'essayais de me concentrer un peu plus sur ma prépa. Mais une semaine avant les championnats d'Europe senior, ma concurrente se blesse et donc l'équipe de France m'appelle en me disant « Sophia, est-ce que tu veux partir aux Europes seniors ?» Donc à une semaine, sans préparation, moi ça faisait pratiquement un mois que je ne m'entraînais plus pour me concentrer plus sur mes études. Mais je me suis dit « Sophia, tu ne peux pas rater ça, c'est une occasion unique. » Ok, ça me mettait en difficulté au niveau de ma prépa, mais j'avais bien conscience que c'était déjà mal engagé quoi, et que peut-être que ce n'était pas forcément la bonne voie. Donc j'ai accepté et je fais médaille de bronze sur ce championnat-là d'Europe à 18 ans sans préparation. Donc ça a été quand même une année excellente d'un point de vue sportif. par la suite, donc je me suis rendu compte que c'était... Oui, c'était pas possible, en fait. Donc, cette prépa-là, de toute façon, vu les exigences, ne voulait pas me garder sur la deuxième année. Ou alors, il fallait que j'arrête le karaté. Et pour ensuite pouvoir prétendre au concours que cette prépa-là préparait. Enfin, voilà, c'est un système quand même très élitiste. J'ai eu quand même des petites victoires dans ce système-là. Parce qu'en début d'année, j'étais allée exposer mon projet à tous les professeurs. Et il y avait une des professeurs, donc la notre prof principale, en fait, qui était quand même très, très stricte. Enfin, elle paraissait quand même très froide, voilà. Et en fait, en fin d'année, je vais la voir avec, du coup, la déléguée de ma classe pour lui dire que j'avais trouvé une nouvelle orientation. Et justement, j'avais été prise à l'INSA, mon école actuelle, donc l'INSA, l'Institut National des Sciences Appliquées, qui avait une section sportive de haut niveau. Et en fait, c'est grâce à ma prépa que j'ai connu l'INSA. Donc, plusieurs de mes camarades de classe disaient, moi, si j'aurai tel concours, ou si j'ai pas telle école, j'irai à l'INSA. En fait, je ne connaissais pas du tout. Donc, je n'étais pas du tout informée aussi sur les écoles d'ingé, sur ce qui était possible. C'est vrai que je venais, moi, pas d'un grand lycée. Hein, je venais même du dernier lycée de l'académie, en fait, l'académie de Nice. Donc, c'est là que j'ai connu l'INSA. Je me suis renseignée, j'ai su qu'il y avait une section sportive de haut niveau à l'INSA. Et donc là, je me suis dit, mais oui, en fait, c'est ça qu'il me faut. C'est ça qu'il me faut. Il me faut une école où je peux combiner à la fois mes études, des études de haut niveau, puisque l'INSA est une école d'ingé très bien classée en France et à l'international, et la prise en compte, du coup, de ma carrière sportive, de mes ambitions sportives, parce qu'en fait, je ne suis pas que une étudiante sportive. En fait, c'est les deux ensemble. Et c'est grâce à cette année-là très difficile que je me suis rendu compte de l'importance, même si je le savais, mais ça m'a, je pense, ouvert les yeux sur ce qui était essentiel pour moi, ce dont j'avais besoin pour être heureuse et la place en fait qu'occupait le karaté dans ma vie. Une place en fait beaucoup plus importante que ce que je lui accordais jusque-là sûrement. En tout cas, c'était le point de blocage que j'ai ressenti à ce moment-là en prépa puisque c'était pas possible. Finalement, en fait, c'était le système qui me correspondait pas tout simplement. Et du coup, pour en revenir à cette prof principale, quand on est allé lui annoncer que j'étais prise à l'INSA, elle m'a prise dans ses bras et elle a eu larmes à l'œil en me disant félicitations. Donc, pour moi, je m'étais dit, Sophia, tu as une petite victoire parce que tu as réussi à sortir une petite humanité dans cette personne et dans ce système élitiste qui est très déshumanisé et très dur psychologiquement. Donc, c'est comme ça que je me suis rendu compte de l'importance d'avoir un double projet qui comprend les deux. Alors, je me suis sentie hyper performante donc en 2014, cette année-là où je me révèle en fait en senior, même si j'étais un peu un espoir qu'on attendait, parce que j'avais des perfs très régulières chez les jeunes. En senior, je sais qu'on m'attendait, donc j'ai été à la hauteur de ces attentes-là. Derrière, ça a suivi, hein, parce que 2015, je fais de nouveau championne d'Europe espoir, 18-21 ans. 2016, de nouveau championne d'Europe espoir. Aujourd'hui, c'est encore un record européen de faire triple championne d'Europe espoir d'affilée. Personne n'a égalé ce record-là. Donc oui, j'ai été... Je ne sais pas si j'ai été de plus en plus performante. En tout cas, j'ai gardé ce niveau de performance très élevé pendant très longtemps et j'ai en fait pas eu de creux. Il n'y a pas eu de moment réel de creux, à part justement en 2016. Je m'étais faite une subluxation de l'épaule. Bon, je ne sais plus exactement, mais j'avais la touche de piano là. Donc, il y avait un souci acromio-claviculaire, je ne sais plus. Mais en gros, j'avais eu l'épaule dans une écharpe pendant le mois précédent, je crois, les championnats d'Europe. Je l'ai enlevée de l'écharpe... une semaine avant, je crois. Et du coup, je combattais au championnat d'Europe avec un bras ballant, un bras que je ne pouvais pas utiliser. Et je fais championne d'Europe comme ça en 2016. Donc, c'est aussi une de mes forces. Ça a toujours été mon mental. Et sauf que pendant tout ce temps, en fait, depuis... ça faisait même plusieurs années déjà, je souffrais de la hanche. Depuis... je pense que c'était depuis 2014-2013. J'avais donc une pathologie à la hanche qui était... difficile à diagnostiquer, en tout cas qui était méconnu à l'époque. Donc j'avais un conflit de hanche, c'est une morpho un peu spécifique qui fait que le fémur vient taper sur la hanche, ou alors il peut y avoir une petite bosse au niveau du fémur qui vient taper sur la hanche, et du coup quand on va dans les grandes amplitudes, ça vient ronger un peu l'articulation, et du coup faire de la perte de cartilage et de l'arthrose précoce. Mais donc les diagnostics de conflit de hanche n'étaient pas encore au top à ce moment-là. Et donc, ça a mis du temps à être trouvé. Donc, en 2016, on savait que j'avais ça. Sauf que c'était déjà un point de douleur horrible. À tel point, par exemple, qu'entre mes tours, donc les qualifications le matin et ma finale, je ne marchais plus, littéralement. Tellement la douleur était importante. Et à chaque fois, il y avait un énorme travail d'échauffement pour pouvoir refaire une paire derrière et refaire le dernier combat. Mais c'était déjà invivable, sauf que j'étais performante. Donc c'est pour ça que j'ai rien fait avant. 2016, c'était la fin de mes années espoir. Donc j'avais été espoir jusqu'à mes 21 ans. Donc je rentrais vraiment dans l'élite, dans le senior, même si j'en avais déjà fait avant, comme je l'ai dit. Je performais aussi déjà à l'international, puisqu'on a des parcours qui s'appellent des premières ligues. C'est comme des Coupes du Monde. Et j'avais déjà plusieurs médailles en première ligue. J'ai fait une finale à l'Open de Paris. Enfin, j'avais plusieurs médailles internationales en senior. Mais je m'étais dit, bon, c'est le moment, parce que là, déjà, tu souffres. Et si tu veux, derrière, poursuivre ta carrière, il va falloir faire quelque chose. Donc, je me fais opérer en mai 2016, de la hanche. Donc, j'ai eu une résection du fémur et j'ai eu une greffe de cartilage. Puisqu'en fait, c'était tellement important, déjà, les lésions que j'avais, qu'il fallait faire une greffe, puisque j'avais une zone complètement morte sur la tête du fémur. Et c'est ça qui me créait mes douleurs, puisque dès que j'appuyais sur cette zone, en fait, ça me faisait des décharges insupportables dans toute la jambe. Donc j'ai été performante et c'est ça qui a été le premier coup d'arrêt, malgré le fait que j'étais performante en ayant toutes ces douleurs. Après mon opération, donc je suis le protocole forcément de convalescence déjà, de guérison, puisque ça concerne les os, donc c'est un peu long. C'est 3 mois, donc pendant ce temps-là, je prenais mon mal en patience. J'avais aussi mes études à côté, donc d'où l'importance, en tout cas pour moi, ça l'a été, de double projet qui m'a aidée... Oui, soit à me concentrer sur autre chose quand j'avais plus trop envie de penser au karaté, ou soit à m'évader un peu par moment. Donc j'ai suivi le protocole, j'ai fait des séjours de rééducation à Cap-Breton, enfin au CERS de Saint-Raph aussi, comme je suis originaire du Var, c'était proche de chez moi, donc j'ai aussi utilisé ce centre-là de rééducation. On m'avait annoncé 6 mois, je me rappelle, pour un retour à peu près, et j'ai mis un an à revenir. Et au bout d'un an, en juin du coup 2017, je décide de faire une compétition. Alors que j'étais pas du tout encore au top, mais je me suis dit je peux pas faire une saison entière blanche. Parce que nous, les saisons, c'est de septembre à juillet. L'été, des fois, il y a des compétitions l'été, rarement. Mais du coup, septembre à juillet, je m'étais dit non, en juin, je peux pas laisser passer la dernière compétition. J'ai pas envie de faire saison blanche, donc je fais cette compétition-là. C'était une compétition internationale. Donc c'était une première ligue, mais série A. Donc série A, c'est les compétitions que tout le monde peut faire. Mais ça reste à un niveau international. Et je gagne cette compétition pour ma reprise internationale après un an d'arrêt. Donc c'était pour moi une grande satisfaction, un retour important après déjà une période de convalescence qui avait été longue, beaucoup plus longue que prévu, qui n'était pas déjà planifiée, puisque moi je n'avais pas du tout planifié quand je me faisais opérer de rester out pendant un an, puisque comme je l'ai dit, j'étais performante et moi je pensais juste ne plus avoir mal et revenir vite. Donc en 2017, je reprends. En 2018, je suis de nouveau sélectionnée en équipe de France pour faire les championnats d'Europe par équipe. Et par la suite, donc accessoirement, les douleurs sont revenues très vite après cette première opération. Donc c'était, on peut dire que l'opération a été un succès parce qu'en soi, les suites se sont plutôt bien passées. Il n'y a pas eu de problème au niveau de la greffe, mais en fait, mon articulation a continué à s'user. C'était une technique qui ne permettait pas, en fait, au final, de reprendre le karaté, en tout cas à haut niveau. Mais je ne le savais pas sur le moment, et sûrement que le chirurgien non plus n'avait pas conscience que ça allait revenir aussi vite, les douleurs. Donc j'ai de nouveau continué à abîmer mon articulation, à avoir de l'arthrose, à avoir des douleurs horribles au quotidien. Pour vous donner une idée, quand j'allais faire du coup des examens, parce que j'avais beaucoup, quand même j'avais un suivi, je faisais des infiltrations régulières pour diminuer un peu cette douleur, même si les infiltrations ça marche un temps et sur la fin ça ne marchait plus du tout. Et quand j'allais faire des infiltrations avec des radiologues qui ne me connaissaient pas, quand ils regardaient la hanche pour infiltrer, il y en a qui prenaient peur, qui regardaient l'imagerie d'un air bizarre. Et moi, je leur disais, oui, vous inquiétez pas. En fait, ça n'avait même plus la forme d'un fémur, ce qu'ils regardaient à l'image. Enfin, oui, ça faisait très peur. Donc moi, je devais rassurer les radiologues pour leur dire, non, mais je sais, vous inquiétez pas, on fait l'infiltration et je repars. Voilà, donc c'était assez spécial, très, très dur psychologiquement aussi. Mais encore une fois, j'étais performante. Donc entre-temps, mon sport est devenu olympique. Pour 2020 qui est devenu 2021 à cause du Covid. Donc forcément, je m'inscrivais dans cette course olympique, hein, logiquement. En 2019, j'ai une sélection, cette fois-ci en individuel, en senior, et je fais championne d'Europe. Pour la petite anecdote, c'était celle qui m'avait battue au premier tour quand j'avais fait mes premiers championnats d'Europe, du coup à 18 ans, en 2014. Elle m'avait battue au premier tour, mais comme elle était allée en finale, j'avais été repêchée et j'avais donc combattu tous mes repêchages pour finalement être troisième. Parce qu'en karaté, il y a ce système-là quand on perd face à une finaliste. Et donc, j'ai repris cette même concurrente qui est une concurrente très forte dans ma catégorie. Et je la bats en demi-finale de ces championnats d'Europe. Et en finale, je bats aussi une des meilleures de la caté. Donc, je fais vraiment un gros championnat d'Europe. Mais avec du recul, je le fais sur une jambe. Honnêtement, j'étais peut-être à 60% physiquement, mais j'étais à 200% mentalement. Mais j'étais extrêmement limitée dans ce que je faisais. Après, il y avait un atout, il y avait quand même un côté positif, c'est que ça me faisait être ultra efficace. Je ne pouvais pas me permettre de faire des choses qui ne servaient à rien, parce que déjà, ça me faisait souffrir. Et en plus, derrière, je ne pouvais pas... J'avais des capacités, mais c'était beaucoup du mental, dans le mental que je puisais. Et j'étais quand même limitée. Donc, je fais championne d'Europe en ayant beaucoup de plaisir à performer, mais en souffrant énormément au final. Donc, j'ai continué la course olympique, qui a été stoppée à cause du Covid. Donc en 2020, j'étais sélectionnée pour faire les championnats d'Europe qui n'ont jamais eu lieu, puisque a commencé le Covid. Donc après, bon, voilà, on connaît tous hein, le confinement. Et pour nous, les qualifications aux Jeux ont repris en avril 2021. Donc c'était très tardif et c'était juste avant en fait, l'échéance. Sauf que moi, en mars 2021, sur un stage équipe de France, je fais une commotion cérébrale. Donc je prends un mauvais coup à l'entraînement. Je ne m'en rends pas compte tout de suite. C'est ça aussi qui a été compliqué. C'est que c'était arrivé... le soir, oui, sur un entraînement combat. J'ai très mal dormi, etc. Le lendemain matin, on avait un entraînement en autonomie avec les filles. Donc, je me sentais pas très bien. J'avais la tête qui tournait. Donc, j'ai dit non, je pose. Comme ça, je suis mieux ce soir parce que c'était que de l'affrontement, quoi. Et en fait, le soir, après avoir fait tout l'entraînement de la veille quand même, hein, le soir, j'ai commencé à avoir l'envie de vomir. À l'échauffement, j'étais pas bien, j'étais blanche. Après, j'ai eu des symptômes très bizarres, les yeux qui ont commencé à se fermer tout seuls très fortement, des maux de tête. Et en fait, le kiné qui m'avait vu la veille avait compris, enfin, il a compris, il m'a dit t'as dormi, t'as réussi à faire la sieste, j'avais pas réussi à dormir. Et donc, on a compris que c'était une commotion. Je suis allée à l'hôpital et j'ai d'ailleurs eu tout le suivi ma commotion, parce qu'il y a un protocole spécifique à suivre, parce que les commotions, ça peut avoir des conséquences très graves. Enfin, j'ai suivi. En tout cas, du mieux que j'ai pu, parce que la semaine d'après, j'avais quand même mes partiels. Et normalement, c'est une semaine de repos physique et intellectuel pendant une semaine. Donc, je suis quand même allée faire mes partiels, en tout cas ceux que j'étais obligée de faire, parce que sinon, ça me faisait retarder d'un an, repasser les... et c'était pas possible. Déjà que j'avais, des fois, à cause de mes absences sportives, je devais reporter des partiels. J'ai dit, bon, j'y vais. Et je me rappelle qu'un partiel, j'ai dit, bon, là, tu fais le max, parce que tu peux pas réfléchir longtemps. Donc, j'ai fait le max. Il y avait 2 heures de partiel. J'ai fait 1 heure. Au bout d'une heure, je suis sortie. J'ai dit, bon, si t'as bien fait, t'as dit, c'est, voilà, c'est validé. Et je m'étais mise sur un banc. Et à la fin, il y en a qui sont sortis de l'amphi, qui m'ont dit, Sophia, ça va, j'étais vraiment pas bien. Je me suis même pas rendu compte que j'avais passé 1 heure sur ce banc. Et ils m'ont ramené chez moi. Enfin, voilà, donc j'ai quand même fait... j'ai continué mes cours et là à côté. Mais niveau récupération, ça a été très compliqué. Donc, j'ai pas pu reprendre la compétition de qualification au jeu. Derrière, j'ai pas pu faire le championnat d'Europe et du coup, le parcours olympique s'est arrêté là pour moi. Et c'est là que je me suis dit, bon, Sophia, il va falloir s'occuper de cette hanche parce que là, ça fait longtemps que ça dure et au quotidien, c'est plus vivable parce que des actions au quotidien, je pouvais plus faire mes lacets. Des fois, m'habiller, c'était compliqué. Enfin, c'était devenu, horrible et j'avais plus aucune activité en dehors du karaté. Je faisais en sorte de maintenir mon intégrité physique que pour la performance, mais c'est pas possible. Et surtout, j'avais 25 ans. Donc, à 25 ans, on ne peut pas se dire on vit comme ça. Donc, j'ai décidé de refaire une nouvelle opération de la hanche en juin 2021. Et cette fois-ci, la seule opération qui me permettait à la fois de vivre tranquillement et potentiellement, en tout cas, c'était l'objectif de reprendre le karaté, c'était la prothèse de hanche. La deuxième opération de la hanche, on m'avait de nouveau annoncé 6 mois. Sauf qu'au bout de 2 mois, j'ai des douleurs horribles. Donc je me rappelle encore, j'étais en centre de rééducation à ce moment-là. J'ai commencé à avoir mal la journée en rééduc. Et le soir, j'ai passé la nuit. En fait, j'ai l'impression que j'ai passé la nuit à appeler l'infirmière. Donc j'avais mal, à en pleurer. Hein. J'avais mal, Jusque-là, en fait, j'avais quand même une bonne sensibilité de mon corps. malgré tout, ok, je le maltraitais un peu, on va pas se mentir, mais je savais quand, des fois j'allais à l'entraînement et je disais, stop, là je m'entraîne pas aujourd'hui, c'est impossible, ou je savais ce qu'il fallait que je fasse pour me permettre de m'entraîner comme je le voulais. En tout cas, je savais toujours où j'avais mal, plus ou moins pourquoi et comment faire pour m'avoir mal. Et là, j'étais incapable de savoir où j'avais mal. J'avais mal partout. Ça descendait dans toute la jambe. J'avais l'impression que ça battait dans ma hanche. C'était horrible comme sensation. Donc, j'ai appelé l'infirmière parce que j'en pouvais plus. Elle m'a donné de la morphine. Sachant, j'ai oublié de préciser, que pendant toutes ces années de performance, j'avais envie de toujours sentir mon corps et surtout de ne pas rentrer dans le cercle vicieux des médicaments. Donc, à part les infiltrations, je ne prenais rien. Rien du tout. Il m'est arrivé rarement de prendre peut-être un anti-inf ou quoi avant une compétition, mais c'était très rare et je ne voulais pas du tout prendre de médicaments pour sentir mon corps. Et donc, pendant cette crise de douleur en centre de rééducation, l'infirmière est revenue me donner de la morphine plusieurs fois dans la nuit parce qu'en fait, la douleur ne passait pas. Donc, j'en pleurais et ça ne passait pas. Le lendemain matin, j'étais incapable de poser mon pied au sol, donc je ne pouvais plus marcher concrètement. Quand je suis allée voir les kinés, ils n'ont pas compris. Ils ont vraiment pris peur en me voyant. Donc, ça a commencé comme ça. Ça a duré des jours. En fait, presque l'intégralité de mon séjour de réduc, je crois qu'il me restait 2 semaines. Et en fait, pendant 2 semaines, j'étais sous médicaments. Je ne faisais plus que des soins. J'étais sur la table, on me massait ou je faisais de la pressothérapie. Enfin, voilà. Mais j'étais un zombie pendant 2 semaines, sous médicaments. Je m'endormais carrément chez le kiné parce que, vu mon gabarit, encore une fois, les doses qu'on me donnait étaient quand même importantes. Donc ça a été un début un peu cataclysmique à 2 mois post-op. À la suite de ça, donc forcément, je passe des examens, je revois mon chirurgien. Mais je le revois déjà un peu bien 2 semaines, je crois, après le temps de terminer le centre. On attendait en fait de voir si ça allait mieux et de reprendre, mais en fait ça n'a jamais été mieux, donc je n'ai pas pu reprendre la rééducation à ce moment-là. J'avais par la suite moins de douleurs, donc le chirurgien m'a dit de continuer les soins, de continuer la kiné, chose que j'ai faite, sauf que les douleurs ont continué. Après, il y a eu plein de types de douleurs différentes. J'ai eu mal à l'ischio, j'ai eu mal au niveau du fessier. En fait, il y a eu plein de choses successives. Mais en fait, moi, en attendant, je ne pouvais rien faire. J'étais bloquée au lit, j'étais sous médicaments et je passais ma vie à faire des examens ou à faire des soins. Donc, il y a eu plein d'hypothèses qu'on a envisagées. Mais à chaque fois, c'était infructueux. Donc, j'allais voir plein de spécialistes différents. J'étais aussi en contact avec mon médecin du sport puisque le chirurgien m'avait aussi dit de voir avec mon médecin du sport puisque le problème, en tout cas, n'était pas d'origine chirurgicale, quoi, en rapport avec la chirurgie. Donc, c'est ce que j'ai fait. Mon médecin du sport m'a accompagnée pendant tout ce temps-là. Il m'arrivait même pendant longtemps parce qu'en fait, je me disais, il n'y a que toi qui ressens ce que tu sens, il n'y a que toi qui sais exactement tes douleurs. Donc, je cherchais moi-même des symptômes. Bon, après, les kinés et même les médecins me disent que c'est assez impressionnant le niveau que je commence à avoir, malheureusement, mais à force de les côtoyer et surtout de m'intéresser, parce que c'est aussi quelque chose qui m'intéresse, de connaître mon corps, donc de parler un peu le langage là. Donc je me disais, Sophia, tu peux comprendre, donc tu vas chercher. Et donc il m'est arrivé des fois, par rapport à mes douleurs, de regarder ce qui existait, de proposer des diagnostics à mon médecin, et mon médecin me disait, oui, non, ou des fois, oui, c'est intéressant à faire l'examen associé, voilà. Donc il y a eu, ça a duré pendant des mois et des mois. Il y a même eu un moment où, finalement, puisqu'il y avait des douleurs dans la jambe, en tout cas, l'hypothèse a été émise comme quoi ça pouvait être des douleurs au niveau sciatique, d'origine sciatique. Donc, j'ai même vu un chirurgien du dos et qui m'a dit, en voyant l'imagerie, effectivement, j'avais une hernie discale, mais accessoirement, en fait, la majorité de la population, en tout cas, beaucoup de monde dans la population, a une hernie discale qui peut être totalement non douloureuse. Parce qu'en fait, au bout de 6 mois, à rien faire, à faire des examens, à rien trouver, et surtout, on ne me donnait pas de solution, et moi, je me disais, mais c'est pas possible, je peux pas rester comme ça, j'ai dit, je reprends la réduc. Donc, j'ai souffert le martyr, c'était horrible. J'ai repris en centre. Heureusement, j'étais bien accompagnée avec une kiné que je connaissais déjà, du coup, au CERS de Saint-Raphaël. Et mes journées de réduc, franchement, était horrible, avec énormément de douleurs. Je me rappelle que je pleurais dans la piscine, parce que la piscine, c'était en fin de journée. Et comme il y avait de l'eau, je me disais, ça se verra pas trop. Donc, je faisais mes exos en pleurant, tellement c'était difficile, à la fois physiquement, à la fois psychologiquement. Mais au bout d'un moment, quand même, à force d'efforts, les douleurs ont commencé à diminuer. Et du coup, quand je vois ce chirurgien du dos, j'avais plus autant de douleurs. Donc, il y a un test spécial, justement, pour savoir si c'est d'origine sciatique, origine du dos. Et en fait, au moment où je le vois, j'ai plus le test-là est négatif. Donc, quand il me voit, il me dit, si je regarde l'imagerie, oui, j'ai déjà opéré des cas comme ça. Mais là, cliniquement, ça va, donc... Tu continues comme ça et si ça revient, tu me contactes et je t'opère. Donc voilà, on a émis l'hypothèse du dos. Et beaucoup d'épisodes comme ça sur toute l'année. À chaque fois, en fait, je faisais des allers-retours entre la rééduc, le karaté. J'essayais, ça n'allait pas. Franchement, je me rappelle quand j'ai repris, alors qu'en fait, l'objectif, c'était de ne plus avoir de douleur, de ne plus avoir mal et de pratiquer tranquillement. En fait, c'était juste pratiquer sans douleur. À ce moment-là, ce que je recherchais après toutes les douleurs que j'avais eues, c'était pratiquer sans douleur et prendre du plaisir à faire ce que j'aime, sans souffrir. Et je me rappelle que j'étais face à mon entraîneur, je faisais des coups de pied. Donc normalement, je peux les lever au niveau de la tête, hein, donc pour faire mes techniques de jambes. Et là, je faisais des coups de pied au niveau du corps et c'était insupportable. Je faisais mes coups de pied, on faisait les séries et j'avais juste envie de pleurer et lui dire « c'est pas possible les douleurs que j'ai ». Mais je me disais « Sophia, ça va passer ». En fait, c'est le temps, personne n'est passé par là avant moi, donc personne n'était là, personne n'avait la capacité de me dire « oui, c'est normal »,« non, c'est pas normal » et de me rassurer. Donc, en fait, j'avançais en me disant « bon, en fait, Sophia, on n'a rien trouvé, donc t'as rien, donc on y va ». Donc, je me suis moi-même persuadée que j'avais rien. En tout cas, c'est ce que je me suis dit sur le moment. Et c'est comme ça que je me suis dit « tu vas y arriver. En fait, tu te bats pour y arriver, donc tu vas y arriver. Donc, tu prends ton mal en patience, ça va passer et ça ira mieux ». Sauf que ça a été très compliqué, donc je faisais des retours encore une fois entre la rééduc et le centre de rééducation. Il y a eu des épisodes, il y a eu énormément d'épisodes. Il y a eu un épisode où je me suis retrouvée aux urgences, parce qu'en fait, en centre de rééduc, de bon matin, j'ai fait un malaise, mais ce qui m'était jamais arrivé auparavant. Malaise vraiment bizarre, j'étais complètement désorientée. Même en fermant les yeux, il y avait tout qui tournait. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un, mais en tout cas, ça m'était jamais arrivé. J'avais l'impression de tomber dans le vide. Sur la table de kiné, il fallait que je me tienne, parce que j'avais l'impression que j'allais tomber à tout moment. J'étais faible, et en fait, en regardant toutes mes constantes, la glycémie, tout était normal. Donc, je suis quand même allée aux urgences. J'y suis restée de midi, je crois, minuit, le temps de voir quelqu'un. Malheureusement, les urgences étaient... bondé de monde. Et en fait, à minuit, quand je vois le médecin, j'avais plus aucun symptôme. Donc, elle m'a dit que c'était peut-être un problème d'ORL interne. Donc, j'ai vu une ORL 2 jours après, peut-être, et finalement, il n'y avait rien. Donc, l'ORL m'a dit, oui, mais les sportifs de haut niveau, vous avez quand même une proprioception très, très développée, et c'est possible que tu aies réglé ton problème d'ORL interne toute seule, comme ça. Donc, ça en est resté là. Mais il y a eu quand même beaucoup d'épisodes, assez... difficiles à vivre, hein, parce qu'accessoirement, ça ne fait pas plaisir de se retrouver aux urgences. En pleine rééducation, et ça a été un combat au quotidien. Donc, aussi pour... même avec les médecins, au final, parce que j'avais pas l'impression d'être écoutée. Il y a même des médecins qui ont fini, même à plusieurs reprises, par me suggérer que c'était dans ma tête, parce que on trouvait rien. La prothèse allait bien. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on me disait. Donc, ça a été très dur pour moi. J'ai quand même voulu reprendre le karaté, hein, parce que c'est pour ça que je m'étais faite opérer. Donc, j'ai persisté. En mars, j'ai de nouveau arrêté. Avril, je crois que j'ai repris de nouveau trop douleur. Mais je crois que ça allait un peu mieux, mais toujours quand même des douleurs. Du coup, c'était la fin de saison pour nous, donc je me préparais à la saison prochaine, à reprendre la compétition en septembre. Après avoir fait une année, hein, quand même, même plus d'une année de rééducation et de douleur. Et en fait, en juillet, j'ai une crise de douleur chez mon prépa physique, mais vraiment à ne plus pouvoir rien faire du tout. Et j'avais vu énormément de spécialistes différents, dans plein de spécialités différentes. Et je ne sais pas pourquoi, mais tant mieux au final, il m'a dit « va voir tel ostéo ». Je le connais bien, je l'avais pas testé cette souris-là. Il m'a dit peut-être qu'il pourra t'aider, parce que là, c'est vrai que c'est quand même des douleurs très vives que tu as. C'est étrange. Donc, je vais voir cet ostéo. Et dans la salle d'attente de l'ostéo, je rencontre un radiologue avec qui il travaillait. Radiologue réputé à Lyon, du coup, puisque c'était à Lyon. Et surtout, très sympa.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Qui a écouté, bah voilà, il nous a donc l'ostéo nous a présenté. On a commencé à discuter, je lui ai raconté un peu mon parcours et il m'a dit c'est quand même bizarre, viens demain, je te fais une écho. Voilà, donc un radiologue que je rencontre par hasard dans une salle d'attente. Le lendemain, il me fait une écho et il voit un épanchement. Donc dans l'articulation, ça veut dire du liquide, donc bah, ça veut dire qu'il y a une inflammation, donc un problème. Et il me dit, mais c'est bizarre, enfin, à l'écho, j'arrive pas à voir d'où vient le problème, donc reviens le lendemain ou surlendemain, je te fais un scanner. Oui, un scanner. Et donc au scanner, je me dis, purée, il va trouver un truc. Là, je me suis dit, c'est du musculaire, quelque chose. Et donc, je fais mon scanner. Et en revenant, enfin, il vient avec une tête, je m'en souviendrai toute ma vie, et il me dit, il y a un décèlement de la prothèse, il faut réopérer. Et donc, en fait, un décèlement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la prothèse ne tenait plus à mon os. Concrètement, j'avais... Donc, la prothèse, elle a deux parties. Il y a la partie dans le fémur, c'est la tige, et il y a la partie dans la hanche, ça s'appelle la cupule. Et la cupule, c'est là où s'articule la fausse tête de fémur, donc qui est en titane. Et en fait, cette cupule donc, qui était dans la hanche était dans le vide à hauteur de 50%. Donc, 50% de la superficie de la prothèse dans la hanche était dans le vide. Il n'y avait plus d'os autour. L'os avait été totalement rongé. Et en fait, le radiologue, il m'a dit, mais là, ça va. J'étais juste assise sur une table. La veille, je faisais des sauts sur une jambe. La semaine précédente, peut-être, je faisais du karaté. Donc, juste ça, il m'a dit, ça va les douleurs? Parce que c'était déjà dans... Enfin, l'imagerie était hallucinante. Et moi, j'avais repris le karaté comme ça. Je faisais ma prépa physique comme ça. Alors qu'en fait, la prothèse bah, pouvait partir à tout moment parce qu'elle tenait même plus. Donc, j'avais la chance que mon os était dans une excellente bah, qualité, oui, qualité, avait une bonne densité. Et du coup, ça permettait quand même de maintenir l'articulation et de tenir cette prothèse qui était en fait dans le vide à moitié. Et à la suite de ça, donc on m'annonce ça, mais en fait, j'ai pas de raison. Je ne connais pas la cause de ce décèlement de prothèse parce qu'en fait, ça n'est pas normal. C'est pas quelque chose qui se passe normalement. Les décèlements, il y a plusieurs raisons. Mais à un an, et surtout avec mon état de forme, ma qualité de vie aussi, puisque bah, voilà, je suis quand même sportive de haut niveau, donc mon alimentation, ma complémentation, je faisais tout pour que tout aille bien, mon âge et mon poids. En fait, tout ça, c'était des facteurs favorables à la pose d'une prothèse et au fait que je puisse reprendre le sport derrière. Et donc, j'apprends ça brutalement en juillet, alors que moi, je comptais reprendre la compétition en septembre. Donc là, forcément, je contacte mon chirurgien qui me dit bah, ne pas comprendre non plus, qui ne comprend pas la cause. Et donc, une des hypothèses, ça serait une infection. Donc, je fais une ponction pour voir s'il y avait une bactérie. Sauf que les résultats de la ponction, ça arrive un mois après. Le temps de faire toutes les cultures, et il y a des cultures longues. Donc, en fait, pendant un mois, je sais juste que j'ai une prothèse qui ne tient pas, qu'il faut que je me fasse réopérer, et j'ai plus aucun horizon. Puisque moi, j'avais fait ça pour reprendre bah, mon sport, pour reprendre le haut niveau. Et en fait, on m'annonce un an après avoir souffert, après avoir eu des souffrances horribles, plus que ce que je souffrais auparavant. En fait, c'est ça qui est difficile et qui est le plus paradoxal, c'est que je m'étais fait opérer pour ne plus souffrir. Et je souffre d'autant plus, tout ça pour revenir à la case départ, voire pire, un an après. Et donc, au bout d'un mois, donc d'attente interminable, on voit enfin qu'il y avait effectivement une bactérie. Et donc, c'était une infection. Donc, j'avais une infection depuis plus d'un an, puisqu'en fait, j'ai eu mal dès 2 mois post-op. Donc, c'était une infection nosocomiale. C'était une infection que j'ai eue pendant l'opération, ou en tout cas à la clinique. Donc, ça datait bien du tout début. Et donc, c'est trouvé par hasard un an après. Voilà. Donc, quand on découvre la raison donc du décèlement de la prothèse, bah forcément, je le savais déjà, mais il fallait faire une reprise chirurgicale. Donc, j'avais déjà eu contact avec un autre chirurgien. Enfin, voilà, durant l'année où j'avais cherché par moi-même hein, beaucoup de solutions, de pistes en fait pour faire cesser mes douleurs, j'avais été mise en contact avec un autre chirurgien qui s'avérait être en fait le collègue de mon chirurgien. Et donc, quand je revois mon chirurgien Il me propose une nouvelle opération, de fixer la date, etc. Et donc moi, je lui dis que c'est hors de question, que je lui faisais plus confiance et que j'allais être opérée par son collègue. Au final, donc son collègue me suggère une opération, enfin en tout cas, il m'appelle pour m'expliquer l'opération peut-être une semaine après. Et j'ai bien fait finalement de changer de chirurgien parce que le premier chirurgien me proposait une opération très traumatisante pour mon corps, et notamment couper beaucoup de muscles, couper le fémur, enfin des choses qui m'auraient complètement empêché de reprendre le sport tout court et le sport haut niveau, hein, a fortiori. Et c'était quand même l'objectif principal, c'était l'objectif premier de cette opération de prothèse de hanche à 25 ans, je le rappelle, parce que sinon j'avais une autre option. C'était déjà, ça a été un long processus, hein, d'accepter le fait de mettre une prothèse et de le faire aussitôt. Mais je m'étais dit, Sophia, t'es jeune, tu souffres. Est-ce que c'est la solution, c'est de tout arrêter, d'arrêter ce que t'aimes et de te faire opérer? De toute façon, la prothèse, tu vas l'avoir puisque ta hanche est dans un état catastrophique. Donc de te faire opérer, je sais pas, des années après ou peut-être à 35, à les 40 ans grand max en ayant tiré, mais en souffrant pendant tout ce temps et en faisant pas ce que t'aimes. Donc j'en suis arrivée à la conclusion, après chacun c'est des choix, hein. Mais je me suis dit non, il faut que tu profites. En fait, il faut que tu profites de ne pas souffrir tout simplement déjà, parce que c'est pas possible, et de faire ce que t'aimes. Donc c'est de faire du karaté, de faire du haut niveau et de pouvoir le faire en étant pleinement épanouie, en ne souffrant plus. Parce que finalement, c'était éphémère. C'était des joies, mais c'était toujours éphémère parce que je souffrais tellement que je profitais pas pleinement. Et donc l'objectif, c'était quand même ça. Et l'opération qu'il me proposait, en fait, m'enlevait complètement mes chances de reprendre mon sport à haut niveau. Donc le nouveau chirurgien me repropose en fait exactement la même opération, de ne pas toucher à mon fémur parce que le fémur était en bon état en fait au final, et de donc faire un nettoyage parce que c'était vraiment... en lisant le compte-rendu d'opération, je me suis un peu intéressée, mais ça fait peur. Donc c'était dans un état vraiment catastrophique, donc proposer un nettoyage, aller enlever du coup les parties d'os qui étaient infectées par cette bactérie, parce qu'en fait le risque c'est que ça se propage et que ça atteigne du coup... le reste de la prothèse, ma jambe, voilà. Donc déjà, accessoirement, j'ai eu un peu de chance, mais au final, je crois pas que c'est que de la chance. Et c'est aussi le fait que je prenne soin, malgré tout, de moi, de mon corps, de ma santé. Et ça aurait pu être bien pire. Donc cette infection aurait pu devenir une infection généralisée, parce qu'avoir une infection de cette ampleur, pendant si longtemps, dans mon corps, ça aurait pu être catastrophique, réellement. J'aurais pu perdre ma jambe, ou pire. Donc... ce qu'il me proposait, c'était de faire une greffe osseuse, de changer la cupule, donc la partie qui avait été en contact avec cette bactérie et où mon os avait été rongé, et d'associer un gros traitement antibiotique pendant 6 mois, un traitement lourd, mais en tout cas, ça réduisait fortement les risques de propagation de l'infection, en tout cas sur le reste de la prothèse, parce que dès qu'il y a un matériel prothétique, il y a le risque que la bactérie soit présente sur l'ensemble du matériel. Donc c'était ça le risque. Mais déjà, le risque d'infection en France, c'est 0,5%. Donc, c'est déjà un risque infime. Donc, le risque qu'après la nouvelle opération et le traitement antibio, j'ai encore l'infection et que du coup, il faille réopérer en faisant l'autre opération, en fait, pour enlever aussi la tige dans le fémur, c'était une chance infime. Mais c'était quand même une petite probabilité. Mais je me suis dit, de toute façon, Sophia, t'es là aujourd'hui, t'as pas le choix, donc tu tentes. Si ça se passe bien, tu pourras peut-être reprendre le karaté avec beaucoup d'efforts, parce qu'on parlait plus de ça, hein, on va être honnête. On parlait juste de ma santé, de pouvoir remarcher, d'avoir une hanche qui fonctionne. Enfin, on était là. Hein. Mais moi, dans ma tête, c'est peut-être le seul moment où j'ai réellement douté du fait de revenir, parce que même avec la prothèse, alors qu'on me disait... il y en a beaucoup que ça surprenait, hein, même des médecins, hein, quand j'allais faire tous mes tests et tout pendant cette année-là, qui me disaient vous arrêtez le karaté. J'ai des noms. Et je vais reprendre un haut niveau. Je le savais, je le voulais, et je savais que j'allais mettre tout en œuvre pour y arriver. Donc je me suis dit, Sophia, tu te laisses cette petite chance-là, même si elle était infime. Donc bon, je fais cette nouvelle opération. Ça a été très dur, hein, les suites, en tout cas les suites directes, en post-op, parce que donc déjà l'opération avait été conséquente, j'avais perdu pas mal de sang, donc moi j'étais anémie, hein, donc je suis restée à l'hôpital... 10 jours. Il y avait aussi le traitement intraveineuse, pour commencer, antibiotique, traitement que j'ai très mal supporté, donc j'ai eu des nausées, des vomissements, enfin les suites ont été assez chaotique. J'avais forcément des douleurs, même si je supporte plutôt bien la douleur. Parce que, pour la petite anecdote, la première nuit, on m'avait mis donc la transfusion avec la morphine. Et en fait, le lendemain matin, ils se sont rendus compte que ça ne coulait pas. Donc en fait, la première nuit post-op, j'avais eu zéro médicament. Voilà, toute la nuit, j'étais restée comme ça. Mais encore une fois, enfin, aujourd'hui, j'en ai conscience que c'est pas... Enfin, j'ai une grosse résistance à la douleur. Et je m'en étonne encore. Hein. Mais bon, voilà, donc j'ai quand même eu des suites compliquées, beaucoup de douleurs. Derrière, le post-op, en fait, se passe plutôt bien. C'est assez paradoxal, mais j'avais vécu une première opération avec une prothèse de hanche avec une infection. Et en fait, là, j'avais bah, une prothèse de hanche, OK, avec une reprise de prothèse de hanche, avec quand même des complications, puisqu'il y avait cette histoire de greffe osseuse et tout le traitement, en plus, antibiotique. Mais en fait, j'avais une suite normale de prothèse de hanche, au final. Donc, c'était beaucoup plus facile que la première fois, même s'il y a eu des difficultés, il y a eu des douleurs au niveau des muscles, voilà, plusieurs muscles qui ont eu des problématiques pendant longtemps. Bah, ça allait. Ça allait malgré le fait que ce soit une reprise et que voilà, toutes les choses qui faisaient qu'en fait c'était très défavorable, bah, je les avais pas et surtout je restais très déterminée en fait mentalement. Et ce que m'a prouvé aussi cette année-là, même si ça a été dur, hein, parce que ça a été finalement une longue introspection, à la fois la première année de douleur et la seconde, parce qu'en fait ça de nouveau était une année entière, beaucoup d'introspection et au fait de me rendre compte réellement du pouvoir du mental. De la force mentale que j'avais, même si on me le disait souvent que c'était un de mes atouts dans mon sport, ok, c'est un sport de combat, mais j'avais un gros mental. Bon, j'en avais conscience, mais là, j'ai quand même combattu mentalement une infection qui était physiquement, elle, bien présente. Et parce que j'en avais décidé ainsi, j'ai repris le karaté malgré ça. Et donc, je me suis dit, même s'il t'arrive tout ça, tu vas y arriver, Sophia, parce que t'as ce truc et cette détermination qu'on peut pas t'enlever. Donc, ok, statistiquement, là, tu défies tout. Personne ne l'a fait avant toi, mais bah, qu'est-ce qui t'en empêche? En fait, il n'y a que toi. Il n'y a pas de contre-indication médicale. Donc, si tu le sens, il n'y a pas de raison. Et en fait, moi, je le savais déjà depuis le début que si j'avais pas mal, parce que c'était ça, à l'origine, c'est faire ma passion sans douleur, que si j'avais pas mal, derrière, j'allais prendre du plaisir. Et quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Je suis totalement investie dans ce que je fais. Donc, je savais qu'en fait, j'allais retourner vers le haut niveau. Mais ça a été beaucoup de phases. Et j'ai traversé des phases très compliquées hein, durant ces deux années. Comme je disais, ça a été de l'introspection, donc aussi beaucoup de réflexions sur moi-même, sur ce qui me poussait à faire ça, en réalité, ce que j'aimais dans ça. Et me rendre compte aussi, au final, parce qu'effectivement, j'aimais faire du haut niveau, j'aimais faire des médailles, être performante, mais en fait, me rendre compte, après beaucoup de réflexions, j'ai aussi d'ailleurs été accompagnée psychologiquement. J'avais déjà un prépa mental, mais c'est durant cette période-là que j'ai rajouté, après la troisième, opération, j'ai rajouté un suivi psychologique que j'aurais sûrement dû faire avant, mais je n'étais pas encore prête. Donc je l'ai fait à la suite de cet épisode qui a été quand même un choc et un traumatisme important. Et en fait, grâce à tout ce travail, je me suis rendu compte que le karaté, les médailles, etc., c'était pas une fin en soi, que à l'origine, ça l'était, hein, parce que c'est ce qui me faisait vibrer, et ça, voilà, c'est ce qui m'animait et ce qui m'en rendait heureuse, mais c'était un moyen, et c'était le moyen d'être épanouie, en fait, d'être épanouie dans ma vie. Et aujourd'hui, en tout cas à ce moment-là, et aujourd'hui et toujours, hein, c'est ce que je cherche, c'est être épanouie, être alignée avec moi-même, parce qu'avant, c'était le mental qui dirigeait tout, et mon corps qui suivait. Et en fait, j'ai plus envie de ça. J'ai envie d'être totalement alignée, d'être heureuse dans ce que je fais, de pas souffrir. C'est un peu la base, mais pour moi, c'était devenu tellement le quotidien de composer avec la souffrance, avec les douleurs quotidiennes, que juste ça, être épanouie, être heureuse en tant que personne, pas en tant qu'athlète. C'est vraiment en tant que personne et rechercher un épanouissement réel et personnel au-delà de la performance. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, je me disais... Ben, j'ai envie de reprendre le karaté, mais j'avais toujours, quand on est compétitrice et quand on a connu ce niveau-là, j'avais toujours cette petite voix dans ma tête qui me disait « Ouais, Sophia, j'ai envie de reprendre les niveaux, j'ai envie de regoûter à tout ça sans douleur, de juste profiter à fond. » Et accessoirement, j'ai quand même été très performante pendant des années avec, on peut parler d'handicap, hein, avec un handicap quand même important. Et j'ai juste envie, en tout cas c'est ce que je me disais, j'avais envie de voir ce que ça donnait, Sophia avec une hanche qui tient la route. Et en fait, potentiellement, même si ça paraît bizarre, et même aujourd'hui, ça paraît encore bizarre à beaucoup de gens quand je le dis, j'avais conscience que ma hanche droite, potentiellement, elle serait plus forte que la gauche. Parce qu'en fait, c'est une articulation parfaite. C'est une articulation où il n'y a plus de frottement, enfin mécaniquement, voilà mon côté un peu ingé là qui ressort, mais physiquement, c'est une articulation parfaite. Et en travaillant, donc j'ai mis en place beaucoup de choses, hein. J'ai beaucoup travaillé, de la mobilité quotidienne, j'ai rajouté beaucoup de choses en plus parce que je me suis bien rendu compte que, bah, il fallait quand même que je respecte mon corps pour arriver à ce que je lui demandais. Trouver les moyens aussi de guérir mon corps et de guérir à la fois physiquement et mentalement. Mais que cette guérison du corps, elle est passée aussi par la guérison de mon mental et de plein de choses, hein, même en dehors du sport, de ma vie en général, et d'évoluer sur ça, et que bah, à la fois ma guérison mentale, elle servait mon corps, et vice-versa. Et à travers le karaté, notamment, c'était un peu mon baromètre, ça je l'ai compris par la suite, mais donc quand j'ai repris le karaté finalement, puisque j'ai réussi à reprendre le karaté même après cette troisième opération, il y a eu des douleurs, forcément. Il y avait des douleurs toujours présentes, et en fait, c'est ce qui me poussait toujours à aller chercher soit des nouveaux soins, soit continuer les soins réguliers, soit aller chercher des nouvelles spécialités, à faire des choses. Mais en fait, ce que ça me poussait à faire, c'est à être au top physiquement et du coup à ne plus avoir de douleur. Donc dans cette recherche de reprise du karaté, je cherchais aussi juste à guérir. Et aujourd'hui, je sais que si je n'avais pas eu cette ambition de reprendre le karaté, peut-être que physiquement, je ne serais jamais arrivée à ce niveau-là d'intégrité physique et de santé, tout simplement parce que j'ai cherché à tout mettre en place pour arriver à ça. Mais donc, ça a été un long processus. Juin 2023, je reprends, peut-être un peu avant, mai-juin, enfin voilà, par là. Je me laisse tout l'été de prépa. Après la reprise de la saison, en septembre, c'était encore trop tôt. J'avais encore des douleurs. Et finalement, y avait quand même les compétitions qui reprenaient. Moi, j'avais cette ambition, toujours, hein, forcément. Et à l'entraînement, c'était de mieux en mieux. J'avais vraiment de bonnes sensations. J'avais dû, par contre, pendant ces deux années, mettre un peu de côté, malheureusement, mon parcours scolaire. J'ai continué à distance, mais je ne pouvais plus être à Lyon, donc je ne pouvais plus mes cours et ma rééducation en même temps. Donc, accessoirement, la première année, je souffrais la plupart du temps. J'étais alitée très souvent, donc je ne pouvais pas aller en cours. Donc, j'ai quand même fait mes cours à distance. Et donc, en septembre, j'ai repris mes cours pour ma dernière année, après deux années un peu compliquées, et donc j'ai repris en présentiel. Donc en septembre, je reprends les cours en présentiel, donc je faisais mon début de semaine à Lyon, la fin de semaine à Évry, donc je montais sur Paris pour m'entraîner. Donc c'était pas une quantité d'entraînement, on va dire, folle, mais je continuais mes soins à côté, jusqu'à la reprise. Après la reprise de l'entraînement, et des cours en parallèle, donc un emploi du temps quand même très, 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 très chargé. Mais pour moi, ce n'était pas envisageable de faire autrement, puisque mes cours, j'avais forcément à cœur de les terminer, puisque c'est quand même ma dernière année d'école d'ingé. Donc forcément, voilà, je n'allais pas m'arrêter. Et ça a avéré que c'était le moment aussi où mon corps en tout cas me permettait de reprendre le karaté. Et pour moi, c'était essentiel de reprendre aussi sans douleur. Donc j'ai pris le temps de guérir. De m'entraîner correctement, de prendre un volume d'entraînement et après arriver le moment de la compétition. Donc j'étais pas encore au top niveau, on va pas se mentir, c'était un peu une tentative, hein. On sait pas trop ce que ça donne, ça faisait quand même au final 3 ans que j'étais absente du circuit parce qu'il y a eu les 2 ans de blessure plus l'année Covid avant et le fait que j'ai fait ma commotion et que j'ai pas pu reprendre la compétition entre temps, donc ça faisait quand même une longue absence. Moi, je me connais, je suis une athlète, mais j'ai évolué en tant que personne durant ces 2 années-là. J'ai beaucoup avancé sur moi-même, beaucoup de choses, enfin beaucoup de changements aussi. Et du coup, aborder une compétition, c'était un peu, je l'abordais de manière inédite. Même si depuis mon plus jeune âge, je faisais de la compétition, même si depuis mes 14 ans, je fais des compétitions internationales, c'était la première fois que je faisais une compétition en me disant « Sophia, t'y es, ça fait 2 ans que tu galères, ça fait 2 ans que t'attends ce moment, et ce moment, il est là, il arrive, là il est dans 3 semaines, là il est dans 2 semaines. » C'était une charge émotionnelle énorme, Donc là, les semaines qui ont précédé ont été quand même très compliquées. Mais en fait, c'était même pas de la pression, c'était vraiment de l'émotion pure. Des fois, donc, j'étais heureuse, émue de me dire « Sophia, tu y es, tu vas le faire, ça y est, c'est là ». Des fois, malheureusement, ça me rappelait aussi tout ce que j'avais vécu. Donc, il y avait des périodes un peu moins sympas. Voilà. Ça me remet l'émotion même d'en parler. Mais un peu plus compliquées où je repensais à tout ce que j'avais vécu. Donc, il y avait énormément d'émotions, mais aussi beaucoup de fierté d'en être arrivée là. Et de me dire, Sophia, tu vas le faire. En fait, j'étais... je saurais même pas expliquer réellement, mais donc voilà, il y a eu énormément de choses qui sont passées les semaines précédentes cette compétition. Donc je reprends à la Coupe de France, une compétition donc d'un niveau national dans ma catégorie de poids. Et en fait, c'était même pas de la pression, c'était vraiment juste de l'émotion. C'est la première fois de ma vie qu'avant de monter sur tatami, j'avais envie de pleurer. Enfin, c'était quelque chose d'extrêmement fort à vivre. Il y avait aussi mon entraîneur à côté de moi. Donc mon entraîneur qui c'est le même hein, depuis, enfin qui m'a connu avant la prothèse, avant toutes ces avec qui je fais championne d'Europe puisqu'il m'a accompagnée aussi sur sur le parcours qui a préparé ces championnats d'Europe. Et lui aussi il était ému en fait d'être juste là et de se dire je vais m'asseoir sur la chaise et coacher Sophia. Enfin c'était quelque chose quand même d'assez fort à vivre et malheureusement j'ai pas su gérer ça. C'est trop plein d'émotions, j'étais pleine de bonne volonté. Mais c'est vrai que quand on a tout ça en tête, quand on prépare une compétition, c'est pas malheureusement les meilleures conditions. Mais en tout cas, c'était les phases que j'ai traversées. Et il n'y a pas beaucoup de monde qui ont aussi vécu tout ce que j'ai vécu. Donc je ne sais pas si c'est des phases normales ou pas, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et sur le jour J, donc même s'il y avait toute cette envie, toute cette joie d'être là, j'ai pas réussi à être lucide, j'ai pas réussi à avoir un karaté quand même efficace. Et malheureusement, donc je perds, je crois que c'était le second tour. C'était il y a pas si longtemps, mais du coup, je m'en rappelle même plus. Oui, je crois que c'était, je perds au deuxième combat sur un score très serré. Je perds par ma faute, hein, clairement, parce que c'est moi qui ai pas réussi à gérer tout ça. Mais avec le recul, est-ce que je peux m'en vouloir ? C'est juste que... En plus, je m'étais dit, durant ces deux années, d'accepter. En fait, ça a été un long travail aussi sur accepter ce qui m'est arrivé, accepter les sentiments qui pouvaient... Les émotions et les sentiments qui pouvaient me traverser, les phases où j'étais moins bien, les accepter et ne pas m'en vouloir, en fait, d'être moins bien des fois, par moments. Accepter aussi les phases où mon corps allait moins bien, parce qu'il y a eu beaucoup de phases où y avait deux, trois douleurs qui traînaient, etc. Et c'était avancer avec mon corps et pas contre lui. Parce qu'en fait, ça faisait des années qu'en plus de combattre mes adversaires, je combattais mon corps parce que je lui demandais l'impossible. Lui, bien sûr, je ne sais pas si c'est logique, mais en tout cas, il obéissait. Et mon mental était tellement fort qu'il obéissait, mais j'avais plus envie de ça. Et donc, je m'étais dit d'accepter toutes les phases où j'allais moins bien. Et donc, en amont de cette compétition de reprise, j'ai aussi accepté d'aller moins bien. Et je ne me suis pas battue contre ces émotions, je les ai laissées. Donc, comme j'ai dit, des fois, je repensais à ce qui m'est arrivé, c'était dur. Mais je me disais, c'est pas grave. Enfin, voilà. Après, en approchant de la compétition, j'avais conscience que c'était quand même un peu plus problématique d'être encore un peu dans cette phase-là et pas au top. Mais voilà, ça s'est passé comme ça. Donc, forcément, ça a été un gros coup dur. Hein, parce que, forcément, j'avais des ambitions. Ok, c'est un retour après 3 ans. Beaucoup m'ont dit, c'est déjà exceptionnel que tu sois là. Ils n'ont pas tort. C'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui m'ont salué et félicité pendant cette compétition. Ça m'a fait plaisir hein, de revoir tout le monde, d'être encouragée de cette manière-là. Mais moi, je savais. Et il y a quelques personnes qui m'ont dit, Sophia, je pensais que tu allais revenir et reprendre la KT tout de suite. Reprendre la place de numéro 1 dans la catégorie. Et moi, quelque part, je restais sur ma faim parce que je savais en fait de quoi j'étais capable, ce que je pouvais faire. Et du coup, ce que j'avais pas montré, en tout cas, ce que j'avais pas réussi à montrer sur cette compétition-là. Donc derrière, y a eu vraiment un coup, un petit coup de mou quand même. Parce que c'était aussi des désillusions, c'était des choses que j'avais besoin de digérer. Parce que c'était aussi, quelque part, Bon, c'est fou parce que c'était un retour, c'était quelque chose d'exceptionnel, mais c'était une petite, une petite déception. Pour moi, en tout cas, je l'ai vécu comme ça. Sauf que, fort heureusement, la semaine suivante, il y avait une autre compétition qui était organisée. C'était donc une compétition internationale, une première ligue, Serie A, donc comme un peu le circuit Coupe du Monde qu'on a, mais Serie A, donc tout le monde peut y participer, puisque les premières ligues, c'est seulement les personnes en haut du classement. Donc forcément, au bout de 3 ans, j'étais complètement sortie du classement. Et donc, je participe à cette compétition. Et cette fois-ci, donc, en ayant eu cette déception, en tout cas, ce retour à la compétition une semaine après, j'ai abordé les choses totalement différemment. En fait, je me suis dit, Sophia, après tout ce que tu as traversé, tu es là. Retrouver aussi le circuit international, c'était exceptionnel. Les coachs qui venaient, les étrangers qui venaient me saluer, me féliciter, qui me disaient, j'avais pas commencé la compétition, mais qui me disaient, tu es une guerrière, enfin, ça fait plaisir de te voir là. Et j'ai senti voilà, tout ce soutien. Et une de mes concurrentes aussi qui est venue me saluer, avec qui j'ai fait beaucoup de finales internationales, qui est venue me saluer, qui a fait toute la salle d'échauffement pour venir, pour me prendre dans ses bras, pour me dire comment tu vas, je suis contente de te voir ici. Enfin voilà, c'était vraiment fort, c'était très fort en émotion, même à côté de la compétition, même avant la compétition. Donc je me suis aussi autorisée, moi, à vivre ces émotions et à décharger aussi avant la compétition. Voilà, chose que je n'avais pas faite peut-être avant la Coupe de France et ça m'a desservie. Et donc, je fais cette compétition avec une concurrence quand même internationale. Il y avait énormément de pays représentés. Et en fait, j'ai eu des sensations exceptionnelles sur la compétition. Mais vraiment, je me suis sentie forte. Je n'ai pas eu de douleur, aucune douleur. Même moi, je me voyais faire mes mouvements et je me disais, waouh, Sophia, c'est toi qui fais ça. Des coups de pied que je ne faisais plus depuis des années ou des choses... où j'étais vraiment limitée, là, en fait, je pouvais tout faire. Parce que j'avais plus cette douleur constante présente dans ma hanche qui m'empêchait d'agir et de faire ce que je voulais. Donc, je fais mes combats, ça se passe hyper bien. Et je me qualifie jusqu'en finale. Donc, les qualifs avaient lieu le samedi, la finale était le dimanche. Et ça a été un soulagement, une joie indescriptible. Le moment où je gagne ma demi, donc il y a eu énormément d'erreurs. Hein. En termes de karaté purement, c'est très perfectible, hein, on ne va pas se mentir. Avant ça, je prenais très peu de points, c'était un de mes points forts, et on marquait très peu de points. Là, j'ai pris énormément de points, mais j'en ai marqué beaucoup, donc ça me faisait gagner les combats. Donc bon, voilà, c'est des choses qu'il faudra régler par la suite, mais en tout cas, je suis revenue à haut niveau, j'ai fait une compétition sans avoir mal, et en vivant des émotions exceptionnelles. Et même, je peux dire, malgré les erreurs, que j'ai l'impression, limite, de m'être sentie plus forte sur cette compétition que sur toutes les autres compétitions où même j'ai fait des médailles ou même quand j'ai fait championne d'Europe. Quand j'ai fait championne d'Europe senior, j'étais dans un état de flow exceptionnel, mentalement. Mais là, j'avais les deux. J'étais à la fois présente physiquement et mentalement, et à pouvoir avoir ce niveau-là et pouvoir m'exprimer de cette manière-là, vraiment, c'était exceptionnel. Donc, ça a été un soulagement et l'aboutissement, en fait, un peu aussi la fin de tout ce que j'avais vécu. Enfin, vraiment, clôturer cette période compliquée et en faire une nouvelle. Parce qu'en fait, ça faisait des années que je faisais avec mon mental et avec un corps qui n'allait pas bien jusqu'à ce point de rupture qu'a été la prothèse. Et après, il y a eu tout ce travail un peu pour défaire malheureusement tout ce que j'avais fait à mon corps, parce que il y a eu des compensations, il y a eu beaucoup de choses. Donc maintenant j'en ai conscience que en fait ça a été beaucoup plus grave que juste une prothèse et juste des souffrances à l'anse, tout ce que j'ai fait subir à mon corps. Mais du coup j'ai réussi, je suis encore dedans, parce que ça va être un travail à continuer sur des années, sûrement sur même toute ma vie. Mais donc j'ai réussi à remonter un peu ça, à travailler aussi sur moi mentalement en parallèle pour arriver à m'exprimer pleinement physiquement. Donc je termine cette compétition là, je fais deuxième. Donc j'ai pas pu m'exprimer pleinement sur ma finale à cause d'une blessure, mais qui n'était pas en rapport avec ma hanche. Donc la finale reste anecdotique, mais en tout cas oui, c'est le retour que j'ai envie de retenir, le retour avant tout. Et la suite qui s'annonce belle, parce que maintenant que j'ai repris le karaté, que j'ai plus de douleur et que j'ai vu que j'étais pas folle, en fait. Parce qu'on prenait pour une folle, on m'a beaucoup pris pour une folle, je pense, même si on me le disait pas, peut-être. Moi, je savais que c'était possible, je l'ai montré, je l'ai fait, et maintenant, j'attends la suite avec impatience, mais... En tout cas, c'est déjà une première grosse victoire. Et au-delà d'une victoire sportive, c'est aussi une victoire sur la vie. Et oui, une preuve quand on s'accroche, malgré tout ce qui peut arriver, malgré toutes les mésaventures, on peut y arriver. Même si ça paraît fou, on peut y arriver.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Championne du Monde sur les plateformes d'écoute et à nous laisser commentaires et étoiles sur Apple Podcasts. Et rejoignez-nous sur Instagram pour plus de news et infos sur le sport au féminin. À bientôt!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.